Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 29 mars 2008, il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
ouais, maintenant,
le supplément week-end avec l'actu manga, ciné, TV.
Manga, suivi de...
Ça c'est du sport, les résultats sportifs en direct de la morgue et du KGB TFA.
Et ensuite
à 15h, rien à foutre, Ja, Not Dead, c'est du reggae. Allez, un petit Gilardi en pâte à d'ombre. À 17h, Big Bang. 18h, Made in Trance. 19h, Happy Hour. 20h, la CTO Experience. 21h, 39 Love. Et à 23h, le potager en live. Allez Thomas, fais tomber cette mine de il va nous manquer et tout. Il commentait super mal le rugby, on a rien à foutre.
Mais toi tu t'intéresses pas au sport, qu'est-ce qu'on a à péter?
Bon d'accord, ok. Donc t'étais pas là pour l'émission numéro 150.
Non.
Donc on ne fera pas une spéciale 150. Par contre, il n'est pas dit qu'on va peut-être avancer la spéciale manga. Je n'en sais rien. Peut-être on aura un invité tout à l'heure. Ça, c'est les mystères. Et c'est normal parce qu'on est à l'approche du 1er avril. Donc forcément, aujourd'hui, tout peut arriver.
Tout.
Bam, le nouveau morceau de Kim K n'est pas sur FMR. Ouf, vous avez échappé à ça. Allez hop! La véritable intro, c'est DJ Yellow and Astrid Suriano. You are. super radio éphémère. Il y a tout qui part en couille à chaque fois. Donc voilà. Donc en plus, j'ai du saucisson plein la bouche. Donc cette émission n'est pas cachère. Thomas, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Bonjour du sport.
Bonjour.
J'espère que tout va bien. En tout cas, ça va un petit peu mieux sur le fond de la reconnaissance des auteurs aux États-Unis. Figurez-vous que le fils de Siegel, l'un des co-créateurs de Superman,
ah, Jerry Pasdon,
voilà, a gagné son procès face à DC. DC va devoir lui reverser des droits sur le personnage de Superman.
C'est rétroactif ?
Avec tous les arriérés. Parce que il faut bien se dire une chose, c'est qu'aux États-Unis, on n'est pas dans une notion de droit d'auteur comme en France, qui est vraiment une exception culturelle purement française. On la retrouve dans pratiquement aucun autre pays au monde. C'est-à-dire que l'auteur ne cède jamais complètement ses droits, il a toujours le droit moral sur l'œuvre, et on ne peut pas le spolier de ses droits. Là-dessus, il y a eu plusieurs procès pour une raison toute simple. C'est que à l'époque, ça s'appelait pas DC, ça s'appelait Timely, ils avaient complètement oublié de faire signer les contrats comme quoi, en fait, ils leur achetaient leur œuvre aux auteurs de Superman. Idem pour l'auteur de Batman. C'est pour ça que, après coup, sur les films, ils ont dû remettre les noms, ils ont retourné les génériques parce qu'ils ont perdu un procès entre-temps, comme quoi, bah oui, bon, c'est d'après les personnages de Siegel et je ne sais plus quel est l'autre.
Et Schuster.
Ouais. Et idem pour Bob Kane, pour Batman. À mon avis, là, il y en a un qui doit se dire « Ouais !» Et du coup, ils vont se dire « Oh, ben, il faut vraiment qu'on fasse un Superman 6 et un Superman 7. » Alors, je sais pas quel est le planning de ce côté-là, mais on attendra de voir.
Le Superman 6, les rumeurs disent qu'il est en préparation, en pré-prod en tout cas. Il était question de toute façon qu'il fasse une suite. Bon, après, le budget alloué à cette suite au film de Bryan Singer, donc il n'est pas aussi important que le précédent, puisqu'ils se sont viandés un peu. Donc ils se sont dit, oh, non, on va te filer moins de sous, et puis débrouille
toi. Ouais, il est loin d'avoir cartonné autant que les X-Men. Hein. Voilà. Faut dire qu'à mon avis, l'échec du 4 est peut-être resté entre la gorge du public. À côté de cela, excuse-moi, là je suis en train de redéglutir, on a un invité qui passera tout à l'heure, puisque hier il y avait une conférence manga où on a, qui était organisée par l'association Toulouse Fantasy Show, qui est donc une association de l'école supérieure de commerce. On avait reçu Nathan la semaine dernière, et donc il y avait Julien Hamzalag, qui est le chef de rayon manga à la librairie Album BD Ciné. Et il y avait Sébastien Langevin, et Sébastien nous fait la sympathie de passer tout à l'heure, donc du coup, on décale tout. C'est Thomas qui va commencer par la partie cinéma.
Ouais,
et Thomas, après je vous fais le sport.
Et Thomas, il trépigne d'impatience, je vous laisse deviner pourquoi. Il y a une célèbre trilogie qui arrive.
Non, c'est pas Star Wars. Non, tu veux que je parle de la trilogie un petit peu rapidement? Bon, ben, c'est pour les aficionados de cinéma HK. Il y a la trilogie emblématique produite par Tsoyark et réalisée par John Woo, enfin aux deux tiers, qui est Le Syndicat du Crime, Better Tomorrow en VO, avec voilà, Chun Fat, Leslie Cheung, voilà, voilà.
Ah, grandiose!
C'est un truc grandiose. Bon, le 1 est absolument magnifique. Le 2, il y a une scène d'addition à la fin, mais tu pleures tellement ça n'a jamais été égalé. Dans le 3, ça se passe au Vietnam, avec toujours la ravissante Anita Mui qui regrettait depuis, puisqu'elle est décédée. Et voilà, donc c'est une excellente trilogie qui arrive chez HK dans un splendide packaging dans le courant le mois avril, je crois.
À côté de cela, on avait fait une promesse dans le supplément week-end, c'est que je déstockais mes BD.
Oui, tout à fait.
Et il y a un malheur, c'est que j'ai oublié de copier les questions qui sont arrivées.
Ah oui, parce que là, cette semaine, ça a été assez chargé en questions.
Et il y en avait des jolies. Il y en a d'abord qui sont amusés à répondre.
Il y a même des gens qui ont répondu aux questions d'office, oui.
Et d'ailleurs, les réponses étaient assez rigolotes de ce côté-là. Et donc, malheureusement, ce sera la prochaine fois. Néanmoins, vous pouvez réécouter tous les suppléments week-end, vous pouvez participer aux chroniques, mettre votre grain de sel, vous pouvez aussi nous voir et plein d'autres choses. Et non chérie, non, on ne mettra pas de photos de chatons à l'antenne, on fait une émission de radio. Oui, parce que j'ai des chatons, ils sont trop mignons et en ce moment ils crament dessus quand je fais le
site. Ça dépend si on les fait gagner ou non.
Les chatons ?
Oui.
Non, trop tard, ils sont tous réservés. bref, tout ça pour vous dire, il y a une section avec marqué « Posez-nous votre question ». Alors allez-y, posez la question et oui, j'ai plein de BD, des fois j'achète en double, des fois aussi les attachés de presse, mais ils en vont en double. Donc on a des BD à faire gagner, on en prendra quelques-unes, c'est au mérite. si la question vaut vraiment le coup d'être débattue ou non. Et là, on s'éclatera pour le faire.
Et il me semble qu'on n'a jamais publié la liste des BD à gagner. C'est ça qui est rigolo, en fait.
Ah, il y a des surprises, il y a des belles surprises. À d'autres, si on trouve que les questions sont moisies, on n'hésitera pas. Hein. Mais il y a de tout. Il y a des posters, il y a des badges, il y a des BD. Alors, les posters, on préfère réserver pour les gens qui sont sur Toulouse. Hein. Ce sera plus évident. Oui, parce qu'on est aussi diffusé sur le podcast. Il y a plein qui nous écoutent par le podcast de l'émission. C'est Supplément Week-end. Supplément Week-end, sans accent ni tiré, .tk. Vous les écrivez dans votre navigateur web. Ou sinon, vous cherchez Supplément Week-end FMR ou Supplément Week-end MP3. Et là, il n'y a aucun souci, on est super méga bien référencé. Je fais un travail de ranking, Google Ranking absolument fabuleux. Thomas trépigne d'impatience et me dit « Putain, il blablate, il me fait chier. » La chronique cinéma vous est présentée en Dolby Mono Surround 16/9 par Thomas. Et 16/9, ça veut pas forcément dire que c'est plat.
Ah si, là oui. Donc nous
avons. C'est fait.
Alors si vous êtes abonné au RSS du blog vidéo de Davy Mourier, qui est l'un des membres de un des acteurs de Nerds et de qui présente pas mal d'émissions sur la chaîne No Life, il avait dit donc en fait il avait fait un concours où dans les commentaires on pouvait lui demander d'aller voir le film de notre choix et il irait voir le film qui serait le plus plébiscité. Donc il se trouve que cette semaine il est allé voir Bienvenue chez les Ch'tis. Il dit j'aurais préféré aller voir 10 000 pour bien dire que c'était une merde.
Il avait quand même dit, ne me choisissez pas un trop pourri.
Voilà, donc sachant que, comme il n'a pas vu 10 000, il s'attendait quand même à ce que ce soit une merde. Eh bien, en fait, c'est une merde, oui. Donc, il s'agit de 10 000. Mais de toute façon, dès que je vais dire le nom du réalisateur, alors c'est un film de Roland Emmerich. Hein,
ouais.
Avec des acteurs pas connus, Steven Strait, Camilla Bell. Donc, au temps des mammouths, dans une communauté dans les montagnes, la chamane du village prédit un destin exceptionnel au futur porteur de la lance blanche, qui sera triompher des démons à quatre pattes, c'est des gars à cheval, hein, et sauver la légendaire jeune fille aux yeux bleus. En fait, ils sont amoureux
yeux
les
bleus.
Deux. Ils sont amoureux les deux depuis qu'ils sont petits, et puis ils sont promis l'un à l'autre, nanana. Alors, en fait, avec la meilleure volonté du monde, c'est difficile de trouver quelque chose à sauver dans cette bouse, hein. En fait, le film, il est exactement la même trame que Apocalypto, dont on avait déjà parlé ici, et Pathfinder, qu'on avait aussi chroniqué dans cette émission. Mais ce qu'il y a de rigolo, c'est
que... Je passe une musique calme, hein, c'est pour calmer Thomas, voilà.
Et le plus rigolo, c'est que Roland Emmerich avait déjà réalisé Stargate avant, et on peut quand même dire que c'est un quasi-remake de Stargate. Oui, il nous fait un pot-pourri des musiques et...
moi, j'aurais une question d'intérêt général, Thomas. C'est une question, qui veut gagner des questions? Combien a coûté le dernier navet de Roland Emmerich? A. Un jour et demi, un jour d'après et demi. B. Un Godzilla et demi. C. Un Independence Day et demi. Ou réponse D. La moitié d'un Moon 44.
Le budget est assez important. Je pense que, à vue de nez, le budget de un jour, le jour d'après et demi.
Les rabunes, mais j'adore, c'est la précision quand même du tout.
Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film également? Donc, je parlais de Stargate, et c'est vrai que dans Stargate, c'est quand même plus film de SF. Et là, c'est vrai que le côté un peu numérique du film, c'est-à-dire les mammouths en 3D, le tigre aux dents de sabre en 3D, machin en 3D, les pyramides en 3D, ça vaut pas un Kurt Russell qui dit bonjour à Toutankhamon du con en balançant l'espèce de faux égyptien dans l'anneau pour se téléporter dans le vaisseau spatial à la fin. Le film 10 000 suit en fait la trame d'un récit initiatique. Alors on en connaît des auteurs qui font du récit initiatique. Alors récit initiatique, par définition, c'est comme un conte, hein. Il faut accepter le côté un peu gnangnan avec oui, tu es promis un destin exceptionnel. Alors il va y avoir des épreuves. Il dit oui, tu as réussi avec bravoure cette épreuve. Ça te donne droit à un objet magique ou tiens, tu as gagné ça, donc tu vas pouvoir passer à l'étape supérieure et tout. C'est ce qu'on appelle l'évolution par palier, etc.
Voilà, c'est exactement, par exemple. Le principe du film gnangnan, du film initiatique, c'est par exemple, il était une fois dans l'Ouest. On ne peut pas. Il était une fois en Amérique, pardon.
Oui.
donc oui, donc le genre récit initiatique, on en connaît plein des auteurs qui sont assez à l'aise avec, c'est-à-dire on a du Tim Burton, on a du même du Luc Besson, du Jean-Jacques Hano, voilà, on a des gens comme ça, mais Roland Emmerich en fait, il est quand même spécialiste des blockbusters qui bastonnent avec du boom, et on se dit bon, lui quand il va s'attaquer au film initiatique, il va pas faire comme les autres. Et ben en fait, le film est constamment le cul entre deux chaises, c'est-à-dire que oui, mais il faut l'excuser, c'est un conte en même temps, donc il faut lui pardonner la voix off qui parle tout le temps, tout ça. Mais en même temps, c'est pas vraiment un conte parce qu'il y a, c'est pas du tout naïf, c'est pas du tout s'adresse au public familial, c'est plutôt un film bourrin avec de la baston et tout. Alors voilà, ça a les défauts de tous les genres et puis pas vraiment les qualités. On a une succession quand même de scènes pathétiques. À la fin, c'est quand même. À la fin, t'es censé pleurer et dire oh là là, c'est trop beau et tout. Et à la fin, tu rigoles. Parce que dans le film, donc il y a une voix off, donc en VO, c'est Omar Sharif qui dit ça. Je sais plus quel âge il doit avoir, mais en français, c'est pas lui. Hein. Donc il dit oui, et là, il commence à courir dans la plaine. Tu le vois courir dans la plaine. Et là, il rencontre la magnifique tribu des machins, et c'est là que la légende commence. Et là, la légende commence. Donc en fait, c'est de la paraphrase tout le temps. Ensuite, à la chamane du village.
Omar Sharif a dû perdre une grosse somme, à mon avis, au bridge, hein, pour
il y a la chamane du village qui fait la petite parenthèse, attention,
les champions du monde, voilà, je le dis à l'assistance,
d'accord. La chamane du village, ça fait le retour à la terre au moins 10 fois dans le film, genre, et pendant ce temps dans le village, qu'est-ce qui se passe? Et là, la chamane suit comme si elle était reliée à la radio pour suivre les aventures de son champion de villageois, et elle dit, et alors elle clignote des yeux et puis elle tremble, elle dit oh là là, mais ce qui l'attend, c'est encore pire, et puis oui, je pressens un
mais
danger.
Le pire, c'est la guerre.
Voilà, c'est ridicule. Voilà, cette pauvre chamane, elle passe son temps à trembler dans le film, dit oh non, c'est pas fini, non. À la fin, bon, ce qui est censé être le geste salvateur du héros, c'est-à-dire parce que le principe du film, c'est que c'est une race qui se croit supérieure, qui va esclavagiser tout le monde. Donc le héros, à la fin, il faut qu'il tabasse le méchant devant tout le monde pour dire je suis plus fort que lui, c'est pas un dieu en fait. Et ben là, alors tu t'attends à ce que son ralenti prend le javelot, et puis là, oh, magnifique heure et tout, et puis ouais, c'est trop beau, c'est au ralenti, ça dure 5 minutes. Mais en fait, non, il prend son javelot, et paf, et c'est fini. Ah, mais c'était ça le méchant et tout. Ah, d'accord, bon, c'était le climax, ok. Et reclimax à la fin, je n'ai aucun scrupule à spoiler ce film. La nana est censée mourir, et tu te dis, ah, c'est pas mal, parce que. Le mec il va essayer de sauver sa copine et tout, mais en fait il arrive pas à la sauver, mais quand même dans le voyage il aura quand même été le sauveur de tout le peuple et tout, bon il a quand même gagné ça, même s'il est malheureux. Et en fait la nana, et ben la chamane, elle sert finalement à quelque chose, à part trembler, cligner des yeux, elle fait et il y a le fou, il va dans la bouche de la nana et à la fin elle ressuscite devant un mammouth qui fait oh oh.
Trop cool. Trop cool.
Je crois qu'effectivement on arrive quand même au summum du... Nanar, navet ou
ah oui,
en dessous.
Ça, nanar préhistorique en dessous, à moins de 10 000. Hein. Bon, quand même, le principal truc à sauver du film, hein, ça c'est pour les mecs. Donc là, Nana, l'actrice qui joue l'héroïne principale, c'est Camille Abel. On avait pu l'apercevoir dans la pub Wattles. C'est une des nanas qui discute. Hein, dans le film, bon voilà, c'est vrai, on voit qu'elle. Hein. Donc très mignonne, révélation du film.
En pagne.
Ouais, avec des cheveux de dreadlock, et à la fin, comme c'est la cérémonie, elle est censée être écartelée, donc elle est en décolleté, avec la belle tenue, les cheveux lavés, tout ça. Oh, sauvez-moi! Donc voilà, le truc à sauver, c'était Camille Abel. Et donc le film, dans le truc, non, la nana, hein, l'élément du film. Alors, s'il s'agissait de 10 000, une bouse de Roland Emmerich avec Steven Strait et Camille Abel, et comme 10 000, c'est un film avec des nombres, on va faire, peut-être, un classement des films avec des nombres.
Ah, putain, j'ai oublié le stylo.
C'est-à-dire les titres de films qui sont des nombres.
Grand Dieu, mais t'as fait quoi?
Un top 5? Un classement.
Numéro 5.
Alors, numéro 5, donc on va faire à partir du plus petit pour faire crescendo. Hein. Donc, Pi de Darren Aronofsky.
3,
donc...
14, 15, 92, 6, 5, 3, 5, 9, 2, 4, 2, et puis tout le reste. Oui.
Merci Xavier. Donc Pi, bah, ça raconte, voilà, Pi est capable d'élucider les mystères de la cabale et de la bourse, hein, avec un mec qui se torture le cerveau pour essayer de deviner le mystère de Pi.
Numéro 4.
Seven. Après 34, il y a 7, hein. Ah, de David Fincher, les 7 péchés capitaux, tout ça, bon, tout le monde le connaît.
Tu les as classés par ordre croissant ?
Oui.
Ah.
Il l'a dit au début, là.
Numéro 3.
Ben d'Abbas Kiarostami. Ah, je fais dans le culturel aussi, hein. Sur la condition féminine en Iran, avec 10 conversations dans une voiture qui se suivent.
Numéro 2.
Le nombre 23, ah. Avec Jim Carrey de Joel Schumacher. Ben ouais, mais ça collait dans le top 5. Hein. Oh. Et,
Vendredi 13.
Joel Schumacher était également hors concours pour 8 mm. J'ai hésité, mais c'était pas vraiment un nombre, ouais, tout court. Il y avait millimètres aussi dedans, hein, voilà.
Numéro 1.
Bon, bah 300. Hein.
Ça allait.
J'aurais du monde. J'aurais cru 2001 ou un
non,
truc.
Non, ouais, mais non, mais non, il y a 2001.
L'Odyssée de l'espace. Voilà. Pas 300 de Zack Snyder. Et de toute façon, il ne peut en rester qu'un, puisqu'il en reste un dans les 300 à la fin. Hein. Alors, je vous avais suggéré de prendre un stylo et un papier avant, puisque qui dit chiffre dit nombre, et qui dit nombre dit le compte est bon. Aujourd'hui, nous sommes le numéro. Le supplément week-end numéro 151. Donc vous allez devoir, avec les titres des films que je vous ai donnés, arriver au nombre 151. Je rappelle qu'il y a pi, 7, 10, 23,
oh,
et,
3, merde, 3,
et 300. Alors,
redonne les nombres.
Alors, il y a pi, 7, 10, 23 et 300 pour arriver à 151. Et alors maintenant, il faut que tu me mettes la musique du quiz là.
Ça y est, j'y suis.
J'ai fait l'exercice chez moi, j'ai pris l'avance et c'est possible.
7 x 23 ?
Ouais.
151.
7 x 23, ça fait 161.
Ça fait 161.
Moins 10.
Moins 10, 151, plus 300, 300. Bravo.
Nous applaudissons quand même du sport qui a fait tout ça de tête. Hein.
Alors que moi, je me suis fait chier au
studio. Non, mais, tu vois, mais c'est parce que c'est la même chose que quand je tombe sur les chiffres et les lettres. Les lettres, ça, c'est chiant, d'accord, mais les chiffres, l'exercice, c'est bien parce que je dis tout le temps, ouais, moi j'y arrive de tête, alors que eux, ils ont le papier stylo devant eux et tout, quoi. Donc c'est plus facile pour eux, quoi, tu vois.
D'accord.
C'est sympa. Joli coup, Thomas, tu as décidé comme ça ou quoi?
Oui, j'ai vu, oh, des nombres. Alors est-ce que ça fait 151? Ouais, cool.
Bon, bah puisqu'il est 12h23 minutes et que on a l'arrivée, on a l'invité qui mystère qui va arriver et qu'on est, je vais dire un petit peu en avance pour faire les pubs, vous aurez droit à une brochette de pub, voilà. Oui, mais là, les micros sont ouverts, donc la bouche pleine, on va peut-être éviter. Donc, Sébastien, merci de nous avoir rejoints. Tu as profité du beau temps dehors. Toi, t'es pas fou, tu te mets pas dans une cave. Oui, le niveau sonore, on va te le monter. Voilà, là, c'est nickel. Toi, tu t'enfermes pas dans une cave, t'es pas fou.
Non. Enfin, ça dépend des moments. Je préfère la chambre d'hôtel.
Ça dépend. Sébastien Ferrand, donc, qui était déjà venu la semaine dernière.
Sébastien Langevin.
Étant donné,
c'est Stéphane Ferrand. C'est son Stéphane Ferrand. Avec qui j'ai écrit Les Essentiels. Un essentiel qui s'appelle Le Manga aux éditions Milan. Désormais, oui. Stéphane Ferrand est directeur éditorial des éditions Glénat. Et moi, je suis Sébastien Langevin. En toute modestie, et voilà.
Donc vous avez compris, chers amis auditeurs, que primo, à l'approche du 1er avril, l'émission se devait d'être gag. Donc pendant toute l'émission, je vais dire un mot, et lui après il va me corriger sur la manière dont on dit ce mot.
Comptez sur moi.
Voilà, et la deuxième chose, c'est que c'est vrai que tous les ans on fait une spéciale manga, première semaine d'avril. Là on l'a décalé parce que Pâques est arrivé un petit peu trop tôt, donc du coup on s'est dit... On va quand même se faire une bonne boostify. C'est aussi parce qu'il y a eu hasard du calendrier hier, une conférence pour laquelle Sébastien a été invité. Et on n'avait pas fini toutes les questions. Attends, je regarde. Oui, j'en ai encore 275. Juste une chose par rapport à l'an dernier. Tu étais en train de monter un magazine papier, Canal BD Manga Mag, et sa publication sœur, la seule chose qui change c'est la couverture, c'est Albonnement Manga Mag. Alors la première question c'est, maintenant il est sorti
Oui.
Il est sorti.
Oui, il est sorti, oui. Il est sorti 5 fois même.
Alors l'accueil, comment a-t-il été?
Eh ben, bon, c'est pas à moi obligatoirement de le dire, mais pour ce que j'en sais des remontées des libraires, ben, c'est plutôt positif. Il y avait un vrai besoin. Pour resituer un petit peu le titre, c'est le titre qui est donné par les libraires des réseaux, donc Canal BD, une centaine de librairies spécialisées bande dessinée en France, en Belgique, en Suisse, au Canada, et le réseau des librairies albums, spécialisées bande dessinée également, une trentaine de librairies en France. Magazine gratuit donc, qui traite de l'actualité, on essaie d'être très pointu sur l'actualité, les nouveautés. Donc le numéro en ce moment c'est le numéro de mars-avril, tout va bien. Et y a la moitié, je pense, des chroniques qui sont sur des titres qui vont sortir en avril. Et l'autre moitié, c'était sur les titres qui sont en mars. Donc, essayez d'être up to date, bien pointu. En plus, il y a des choses formidables dans ce numéro parce qu'on a des titres en ce moment qui explosent tout, je crois, ou du moins qui vont le faire. Donc voilà, les retours sont très bons. Il y a besoin d'informations, il y a besoin de connaître les nouveautés parce que c'est surtout ça qui intéresse les gens. C'est les numéros 1, les volumes 1, les nouvelles séries. Et ça continue, je suis en train de préparer le numéro 6, et il y aura une petite nouvelle formule, une version 1.2 pour la rentrée en septembre.
D'accord, donc il n'y aura pas de numéro d'été du coup?
Bien sûr que si, il y aura un numéro 7, mais ce sera un numéro tout à fait normal. Mais je ne prends pas de vacances pendant 2 mois, ils me disent « Oh non, tiens ». Dans la presse, c'est quand même assez malvenu de dire « Je ne sors pas ».
Bien. On va sustenter un peu l'occasion de passer publicité parce que j'ai la régie qui me presse derrière puisqu'il est midi et 30 minutes. C'est le supplément week-end sur FMR avec Sébastien Langevin. Voilà.
Tension, stress, tension, stress, tension, stress. Vite, Subutex Mex. Subutex Mex, ça fait du bien par vos apex. 200 euros les 500 grammes. Subutex Mex, ça décolle.
Bonjour, nous sommes les animateurs de la Taratatouille. Le mardi 1er avril au Bikini, venez découvrir 3 super groupes.
Un concert où nous allons interviewer les musiciens de Ouch Medoma qui font du punk rock baroque et viennent de Tchéquie.
Et puis Stanley Kubi du noise rock mélodrôle de Paris.
Puis Rectus qui font du rock expé de Perpignan.
Venez assister à cet événement exceptionnel aux effets hallucinatoires. D'un coup de carotte magique, tu seras à la fois dans le poste de radio sans bouger du bikini.
C'est à 20h pétante et c'est 6 euros.
À entendre sur Radio Éphémère en direct sur 89.1.
Mais guerres. Viens ou je tue le lapin.
Viens ou j'encule le chien. Waouh.
éphémère.
Ça colle un peu, hein, sous la dent, sous la langue. Donc ne vous inquiétez pas si on a la...
Entre les dents.
Oui, entre les dents, c'est un petit peu chargé.
C'est le saucisson,
ça. L'an dernier, on avait fait donc une conférence ensemble avec, en plus, Patrick Abri des éditions Tiaopan. Cette année, c'est l'année des Jeux Olympiques en Chine. Année plutôt mouvementée, hein, à mon avis, point de vue actualité, sur le grand empire du milieu. De plus en plus de projets se font avec des auteurs chinois. Par exemple, il y a eu une xième adaptation de la légende du roi singe qui a été cette fois-ci faite par Jean-David Morvan. Et encore une fois, c'est une édition qui n'est pas sortie en Chine, qui ne sortira que en dehors de la Chine. En Chine peut-être, mais on ne sait pas quand. Ça se fait un peu dans la foulée de Tiaopan, mais... est-ce que finalement ces bouquins décollent effectivement, puisqu'on est très différent en fait de manga qui c'est du manga japonais.
Oh bah alors c'est une différence fondamentale qui différencie la bande dessinée japonaise de toutes les autres mondes. C'est-à-dire que c'est le premier marché de la bande dessinée au monde et de très très loin. Et là on voit apparaître le manhwa, d'accord, il y a un vrai marché en le manhwa donc en Corée. Il y a un vrai marché en Corée, mais seulement depuis 10 ans. Il y a 10 ans, c'était totalement censuré, il n'y avait rien.
Il y a 15 ans, la fin de la censure, c'était en 91.
15 ans, ok. En Chine, il n'y a pas de marché, et Patrick Avril dit lui-même, il n'y a pas de marché de la bande dessinée. Et c'est une différence fondamentale, parce que le manga, il s'appuie d'une part sur sa puissance commerciale, économique, mais surtout dans la façon de faire... c'est avant tout une bande dessinée qui a été faite spécifiquement pour un public et les auteurs, ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils ont travaillé leur public dans le détail, dans le fond, ils essaient des choses et c'est ce qui fait que le manga pour l'instant, eh bien, il a, ben voilà, quand on allait, il revenait quoi. C'est-à-dire qu'on a 10 longueurs d'avance et la bande dessinée chinoise, même si il y a des grands auteurs, enfin, on est très très loin parce qu'ils n'ont pas de public. Et ça, c'est toute la différence. Est-ce qu'on quand on travaille pour un public ou quand on travaille, grosso modo, pour un autre public, hein, les auteurs chinois, ils ne travaillent pas pour leur public, ils travaillent pour d'autres personnes. Ça n'a rien à voir.
On a aussi, d'un autre côté, sur l'actualité de cette année, des éditeurs papier qui se rapprochent des éditeurs vidéo. C'est une synergie qui existait, mais qui était très, 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 très vague. Hein. Il y avait Pika Edition, qui était plus ou moins lié avec un éditeur, ça a fait long feu. Il y a eu Glénat qui voulait faire un partenariat avec Manga Entertainment. Ils se sont très, très mal sentis. Et en plus, il y avait des bisbis avec le distributeur français. Et maintenant, le mouvement commence à s'accélérer. Ainsi, Kana, spin-off des éditions d'Argo, qui fait partie du groupe Média Participation, a fait créer chez Citel l'éditeur vidéo du même groupe, donc un label Kana. Il y a Azuka, qui a été racheté par l'éditeur Kazé.
Delcourt, éditeur vidéo Kazé, oui.
Delcourt qui a racheté l'éditeur vidéo Black Bones, qui a fait quoi ? Qui a fait deux sorties.
C'est un studio, non ? Black Bones.
Black Bones, non. Ils ont sorti deux, dont Tof, il me semble. J'ai vu passer la chronique. Est-ce que, d'abord, la gestion tout intégrée entre éditeur vidéo et manga, c'est quelque chose qui aurait dû apparaître depuis beaucoup plus tôt. D'ailleurs, elle existe depuis beaucoup plus longtemps que ça aux États-Unis. Est-ce que enfin ça commence à décoller ? Est-ce que c'est un bien ? Est-ce que c'est un mal ?
Alors déjà, on pourrait remarquer que au Japon, ça se passe pas comme ça. C'est pas tout intégré. C'est-à-dire qu'il y a des studios, il y a des éditeurs vidéo qui sortent, qui adaptent en partenariat avec les grands éditeurs de bande dessinée. Mais c'est pas les mêmes gens. Ils font pas le même métier. Et chacun est à sa place et tout va bien.
Bah en général, déjà, c'est d'abord diffusé à la télévision avant d'être édité en vidéo.
Oui, tout à fait.
En vidéo.
Bah oui, enfin, c'est broadcasté.
Ce qui change tout.
Ce qui change un petit peu tout, effectivement. Les deux cas que tu cites, ils sont bons, je pense. On va les reprendre et dans l'ordre, ou dans le désordre, je sais pas. Kazé, effectivement, qui reprend Azuka, et Azuka est très content de ça. Azuka, ça a été une boîte qui s'est montée en indépendante, qui a été reprise par Soleil. Avec Soleil, ça marchait pas très bien. Ils étaient pas vraiment sur les mêmes lignes. Et ils donnaient pas aux éditions Azuka la possibilité de se développer. Donc là, en revanche, Raphaël d'Azuka est très content, je crois, du partenariat avec Kazé. Parce que ça leur permet de faire des lancements croisés, en fait, entre les vidéos et les mangas. Ils balancent les deux sur le marché en même temps, chacun avec leur identité, hein. L'un c'est éditeur de manga, l'autre éditeur de vidéo. Et on a vu ça avec Le Chevalier d'Eon. y a d'autres titres hein, qui sortent.
Ce qu'avait tenté de faire ton cam en 95-96.
Ce qu'avait sorti de faire ton cam, mais c'était peut-être un petit peu prématuré. Le cas de Kana, il est très différent. Kana, ils ont monté d'abord, ils ont fait un partenariat, surtout avec un éditeur japonais, un éditeur de bande dessinée, qui est Shueisha. Et pour l'instant, Kana, c'est surtout Naruto en DVD, quand même. Pourquoi pas? Et en même temps, ils ont sorti Naruto en DVD chez Citel au moment où tout le monde disait oui, mais tout le monde les a vus les épisodes de Naruto, tout le monde les a vus déjà. Ils ont été, c'est les trucs qui ont été.
Je crois qu'ils avaient sorti Monster avant en vidéo.
C'est chez Kazé, Monster.
D'accord.
100%. Donc non. C'est vraiment spécifique. Par contre, ils ont fait un truc qui est très particulier. Et c'est que Kana Video, donc on va dire, c'est elle, va éditer les animés de One Piece.
C'est pas rien, c'est et un gros c'est, truc.
C'est, ah bah c'est un peu que c'est pas rien, c'est quand même le titre numéro 1 au Japon et de très loin, devant Naruto à côté est quand même relativement loin. Donc c'est un énorme truc. En France, One Piece il a un bon succès, mais c'est très en dessous de ce que ça pourrait être et de ce que ça va être, parce que l'année One Piece ce sera plutôt 2009 voire 2010. Mais ça va venir, quoi.
Et
on va
Naruto et One Piece n'ont pas encore été diffusés sur les chaînes hertziennes. Je crois tout peut-être sur les chaînes de la TNT, mais
sur France 3 pour Naruto, je crois. Pas mal censuré. Mais là, quand même. En revanche, que ça laisse présager, c'est une guerre d'éditeurs très importante, parce que One Piece n'est pas édité chez Kana. One Piece est édité chez Glénat. Et je peux vous dire que chez Glénat, on est relativement peu satisfait du fait que. Effectivement, Kana diffuse les épisodes de One Piece en vidéo parce que ils vont être obligés de collaborer sur tout un tas de choses en matière promotionnelle, etc. Et c'est vrai que Kana et Glénat, ce sont quand même les deux principaux acteurs sur le marché du manga en France et de très loin.
C'est quand même assez étonnant. Jacques Glénat, il a un groupe de presse. Bon, c'est les éditions Glénat, c'est les éditions Vent d'Ouest. Ça a été le premier éditeur à faire vraiment du manga en France, à y être enfin arrivé. Ils ont des chaînes de télévision locales et ils ont pas d'éditeurs vidéo dans leur groupe. Ils
c'est sont... pas leur métier. Moi, je comprends très bien.
Attends, leur métier d'avoir Télé 8 Mont Blanc.
Est-ce que c'est à Glénat?
Oui.
D'accord. J'en sais rien. Mais c'est des choses différentes aussi que d'avoir une télé et de faire de l'édition vidéo. Donc bon, c'est pas Jacques Glénat est pas un aventurier, je crois non plus. Je pense que Kana Video, ça s'est lancé sous l'impulsion de Yves Schlierf.
Et puis d'une synergie de groupe. Qui a vraiment, aussi.
Voilà, bon, c'est quand même média participation. C'est pas Glénat. Enfin, c'est une autre ampleur financière, c'est une autre carrure. C'est un groupe qui a d'autres visées aussi, je crois, qui a une vision de la bande dessinée qui est aussi différente. Chez Glénat, on est encore chez un éditeur qui est relativement artisanal, mais dans le bon sens du terme. Hein, ce que je veux dire, c'est qu'il a ses bandes dessinées, qu'il les fait grandir, qu'il les fait monter. Chez Média Participation, bon, on voit le lancement de Black et Mortimer, on est quand même dans la grosse artillerie, quoi. Mais ils s'en cachent pas. Ils sont dans la bande dessinée populaire, il faut qu'ils fassent des chiffres.
Et puis surtout, ils tiennent à leur place de leader, tout en ayant encore de la restructuration à faire, qui est toujours en cours d'ailleurs, hein, entre Dupuis et Dargo. De notre côté, d'ailleurs, pour terminer sur Média Participation, il serait à nouveau en pourparlers avec le groupe Lagardère pour racheter donc le pôle éditeur de Lagardère. Donc Robert Laffont, Xo Édition.
De Lagardère ou d'Editis?
Pour racheter Editis, oui.
Mais Editis, c'est pas Lagardère.
C'est pas Lagardère,
c'est,
merde.
C'est carrément les deux groupes opposés. Il y a Lagardère, c'est Hachette.
Moi, je suis Hachoff.
Hachoff, t'es à Fonche, surtout. Il y a d'un côté, on prend Hachette Livre, on connaît. Et de l'autre côté, Editis, ex Havas. Voilà, ça, c'est les deux plus grands groupes et de très loin de l'édition en France. Et oui, Média Participation serait toujours. Mais ça sera certainement un groupe italien ou espagnol. Mais ça serait.
Tu penses à Corriere?
Ça pourrait. Non, plutôt italien, Rizzoli, qui a déjà pas mal de participation en France avec Flammarion.
Lyon, et Casterman et Audi.
Tout à fait.
Donc hier, on a fait une conférence d'initiation sur les mangas. Donc tous ces termes un petit peu techniques et tout ça, heureusement, on les a pas abordés. Vous pouvez théoriquement, alors on espère en cours de semaine, pour ceux qui nous écoutent sur le podcast, vérifier dès maintenant. On espère avoir le sonore donc de la capture donc qui soit qui sera disponible sur le podcast pour réécouter donc les interventions qui étaient très intéressantes. Mais en préparant la conférence, j'avais compté dans ta publication 257 mangas qui paraissent sur le mois de mars et avril. Alors 257, on se dit mais c'est pas possible, un tel volume.
Je les lis tous deux fois.
Non mais c'est pas possible un tel nombre, c'est comment comment on
mais
comment
non, ils font c'est pas possible, c'est français. Mais oui, non mais c'est comme ça, on est 130.
Est-ce que les tirages moyens sont en train de baisser? Est-ce qu'il y a un retour d'un vendu qui est monstrueux? Non. Toi qui es en phase avec les libraires, tu es peut-être au courant de ce côté-là.
Oui, le tirage moyen baisse. Mmh. Il continue de baisser. Les invendus pas obligatoirement. Il fait partie du rôle notamment de ces réseaux de libraires aussi d'être le relais et d'avoir un fonds assez conséquent, surtout sur les titres qui sont pas les blockbusters comme les One Piece ou les Naruto, qui eux se vendent très tranquillement en supermarché, en hyper, en grande surplace.
En vente sur place, oui.
Grande surplace.
Grande surplace, tu vas y arriver.
Emporter. Et les retours, j'en sais pas. Pas grand chose, mais je crois pas, parce que c'est pas dans l'intérêt non plus des libraires éditeurs, de retourner. Hein. Non, des libraires non plus. Même si, bah, comme tout le monde, ils sont confrontés à un problème de place criant et que le rayon manga, il a complètement explosé. Évidemment, si on met 5 ans déjà, en 5 ans, ça a rien à voir, quoi.
Est-ce qu'il est en train de cannibaliser un peu la BD franco-belge, ce côté-là?
Physiquement?
Oui.
Physiquement
sur la linéaire?
Sur l'inerte, je crois pas. Moi, les librairies que je fréquente plutôt sur Paris n'ont pas une grande surface linéaire de mangas. Les mangas, c'est des bouquins de poche, ça se met sur la tranche. Les BD franco-belges, on a toujours besoin de les checker, de regarder la couverture. Donc, on est dans des mécanismes de. C'est pareil, le fan de manga, souvent, il sait ce qu'il veut. Donc, il vient demander. Non, je crois pas. Pas plus que sur la surface linéaire, pas plus que sur les. Comment dire, sur les chiffres de vente, hein. Je pense qu'on BD franco-belge et manga se sont bien équilibrés maintenant et il n'y a pas beaucoup d'éditeurs français qui se plaignent du manga, on va dire, pour être gentil.
Oui, ils vont quand même pas être méchants et dire quand même c'est du beurre sur les épinards et au moins les sorties sont régulières.
Moi j'aurais une question plus générale en fait, les 257 mangas qui paraissent en 2 mois là, comment tu t'organises, tu en lis combien, tu en lis combien par jour, à partir de combien tu commences à péter un câble, c'est...
Oui, Gilles Ratier serait curieux de connaître ta réponse.
D'accord, salut Gilles. Comment je m'organise? Bon, il y a deux choses, il y a les lectures de fond, c'est-à-dire qu'il y a je suis moi quelques séries, pas beaucoup, hein. Je dois suivre en tout... Si je suis 20 séries ou 25, peut-être 30, allez, c'est le grand max, ça. D'abord. Ensuite, moi, je travaille sur épreuve, je travaille sur les numéros 1. Donc, je me bats avec les attachés, enfin, pas avec les attachés, si, on se bat tous les deux, tous ensemble, attachés de presse et moi, pour avoir des épreuves le plus tôt possible, parce que c'est pas toujours évident d'avoir des épreuves, des bleus de travail, des mangas à paraître dans. Donc moi je suis dans des délais de 3 mois, quoi. 3 mois avant la date de parution. Donc ça c'est compliqué, ça j'essaie de les lire, ça je les lis tous. Je lis tous les volumes 1 qu'on veut bien m'envoyer, je les lis tous parce que c'est des choses qui sont nouvelles, je les lis tous et après je fais une sélection dedans. Il y en a qui m'intéressent moins. Je les traite pas parce que dans ce magazine, c'est un magazine où on fait pas de critiques négatives, c'est quand même une sorte de consumer magazine où on vente évidemment tous les produits et tous les bouquins, mais ça se fait très naturellement, je veux dire sur 250 sorties et même sur plein de nouveautés, ben il y a toujours un minimum de nouveautés, c'est-à-dire que je traite dans le mag là en ce moment par exemple, on a une dizaine de pages de rédactionnel, c'est pas énorme hein, sur 24 pages. Il y a entre 25 et 30 chroniques, donc 25 et 30 nouveautés en général, même s'il y a une page retour où je reviens un petit peu sur des séries qui sont un petit peu plus avancées. Bon, voilà, donc c'est comme ça que je m'organise, sachant que de plus en plus je lis des épreuves électroniques, et que j'ai pas beaucoup de choix et que c'est vraiment beaucoup plus pratique. On économise beaucoup de pages parce que à force aussi ma maison explosait, même si j'en jette beaucoup, c'est compliqué, quoi.
On donnera ton adresse pour tous les fans qui sont sur Paris.
Non, je crois pas, non. Mes poubelles sont étroitement surveillées de garde du corps. Donc, ça a beaucoup fluidifié aussi les échanges et tout ça, parce qu'en plus on peut utiliser les épreuves électroniques, donc des PDF en général, de pas de très bonne qualité, parce qu'il faut pas qu'on les fasse passer, quoi. Enfin, il y en a qui m'envoient les PDF de travail, hein, et puis bon, après. Ça, c'est une question de confiance aussi avec l'éditeur, évidemment, mais ça fait un petit moment que je suis dans la partie, je crois que maintenant ça va un peu. Voilà, c'est ça la grosse évolution par rapport au Virus Manga, où on avait 80, par exemple, il y a 3 ans, on avait 95% d'épreuves papier et 5% d'épreuves électroniques. Mmh. On va pas dire que ça s'est inversé, mais j'arrive à un 50-50.
Mmh, d'accord. Puisque ta revue est distribuée chez les libraires, est-ce que il y a eu une évolution, puisque en fait les deux revues Canal BD Magazine et Canal BD Manga Mag sont disponibles chez les libraires du réseau. Est-ce qu'il y a eu une évolution? Est-ce que tu as eu des retours de ce côté-là, libraires? Est-ce que du coup ils sont plus intéressés sur la BD sur la BD manga, ou est-ce qu'ils disent c'est un échec? Quand on essaie de refiler un fan de manga le magazine normal, ils s'en moquent.
Alors, c'est une question intéressante. Non, au contraire, ils me disent. Moi, j'avais un cahier des charges au départ, et mon public cible, c'est vraiment les ados. Mmh. Donc, sur 30 titres, on va dire chroniqués, il y en a 28 qui sont cœur de cible, adolescentes, pour les deux côtés, les deux sexes. Mais il y a des remontées de libraires qui disent au contraire, ça serait bien d'élargir un petit peu le public et qu'on puisse donner plus Canal BD Manga à des lecteurs de franco-belge, et on peut-être que Sébastien, tu traites pas assez les Taniguchi ou les Monsters, les trucs comme ça, les titres qui sont un peu relais,
plus adultes, plus proches de la collection Made in chez Kana par exemple.
Oui, adultes et relais, en fait, c'est ça le truc, ils sont à la fois adultes et relais entre un public franco-belge et un public manga. Donc dans la version 1.2, je pense que j'écoute ce qu'on me dit, enfin, et il y aura une rubrique, une page, si j'ai plus de pages aussi, où je vais traiter plus particulièrement de ces thèmes-là. Sinon, le Canal BD Manga Mag aussi, c'est un outil qui s'adresse aux libraires eux-mêmes, parce que beaucoup leur connaissent. Quand ils sont pas spécialisés manga, ils connaissent pas grand-chose, et je les comprends très bien.
Et ils ont pas forcément le temps, peut-être, de tout.
Tout à fait. Même quand on est dedans, même quand on est dans le manga, on peut pas. Enfin, moi, je connais pas tout. Je connais pas tout ce qui sort, et je lis pas tout ce qui sort. Alors que je devrais quand même. Mais bon, j'assume très bien ma position assise en ce moment. Et les mangas, oui, les Canal BD Manga Mag est aussi un outil d'information et de formation pour les libraires. Mm.
À côté de cela, voyons un peu ce qui est arrivé cette semaine, enfin ce mois-ci, dans le bac des libraires. Il y a le nouvel artbook de Benjamin, l'artbook qui a été annoncé depuis un bail par l'éditeur Chiaopan. Flash, monstrueux, absolument énorme, il tue Sauvage Sarah, comme j'ai pas eu le temps de le lire, c'est plus Thomas à mon avis qui l'a regardé hier soir, non même pas.
Moi aussi, je l'ai acheté hier, à Julien de la conférence d'ailleurs. Moi je regrette juste pour l'avoir feuilleté assez rapidement, mais après si je m'y penche un peu plus, peut-être que je vais modifier ma réponse. On dirait je m'attendais à plus d'inédits en fait.
Parce qu'il y a c'est des travaux qui ont pas mal été repris dans les encarts
en
finale.
Mais en fait ceux qui connaissent un peu les albums de Benjamin, il y a une grande grande proportion d'illustrations en fait dans ces BD à la fin de ces BD, et en fait ils en ont repris beaucoup dans cet artbook. Par contre, cet artbook, il est au format très très grand, donc c'est aussi bien de les avoir en grand pour les collectionneurs. Mais après, ce qu'il y a de bien, c'est là du sport est en train de le feuilleter, c'est les putains de croquis là qui énerve tout le monde là, dit ah.
Enfin bref, il y a encore du boulot. Il y a une revue, moi je sais pas comment l'appeler, c'est une revue artistique ou une revue de promo. Lui il dit stop, je suis en train de déglutir. C'est Robot Super Color Comics, donc le tome 2. Le premier était sorti, si je me trompe, aux éditions Carabas.
Camille.
Oui, enfin c'est dans le même groupe, voilà. C'est des dessinateurs de mangas qui font une revue graphique purement et simplement. C'est-à-dire ils dessinent des mangas, mais c'est graphique. C'est-à-dire déjà c'est format.
Il y a des mangas qui sont pas graphiques.
Intermezzo.
C'est graphique, il y a des dessins. Ouais,
je déconne. Je disais plus arty, je vais dire plus travaillé. avec de la couleur et de la bonne mise en valeur de forme féminine. Et donc le deuxième tome vient de sortir, il a été repris par Glénat. On l'a attendu quand même pratiquement 2 ans, hein, le deuxième tome en France, sachant qu'au Japon, bah, ils en sont déjà au tome 10. Alors après, on n'aime pas ces histoires, c'est un peu tout et n'importe quoi.
Jean-David Morvan est le premier non-japonais à participer sur le volume 10.
Oh,
je dis ce que j'ai dit, parce que je m'en
peux plus. Si, oui, on a très très bien compris. C'est la transition qu'on attendait pour la suite. En tout cas, ce sont des histoires qui sont à suivre. Et graphiquement, bon voilà, c'est très différent effectivement du format comics, puisque là on est vraiment dans
le voir, Thomas vous montre.
Oui, pour ceux qui n'ont pas la couleur, donc ça tombe bien, sinon on aurait le macaron interdit au moins de 18 ans à cette heure-ci. Enfin, 16 là, c'est 16. Du M6. C'est du M6. On connaît bien hein, du sport. Et le troisième bouquin, à mon avis, troisième bouquin à découvrir, lui, c'est... On ne l'attendait pas peut-être dans ce rayon-là. C'est les Chroniques de Sillage, le cinquième tome vient de sortir. Toujours Jean-David Morvan et Philippe Bûcher qui sont derrière, qui cèdent la place à un collectif de dessinateurs comme à chaque fois, sauf que cette fois-ci, le sens de lecture est côté japonais. Voilà, donc vous trompez pas quand vous allez l'ouvrir. Ça se lit de droite à gauche, puisqu'on y retrouve Niki, Niaoki, Ukewa Wataru, Takahashi Hikaru, Oshima Hiroyuki et Kato Zaka. Je savais que j'aurais dû d'abord répéter que des noms qu'on ne connaît absolument pas en France, à part celui d'Oshima, puisque c'est lui qui avait fait, celui qui avait participé à l'expérience Spirou Manga.
Ah oui.
Mais après les autres, on les connaît pas. C'est bien dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas une bio de ce côté-là des auteurs qui y participent. Donc dans le sillage tome 10, eh ben on avait vu dans la première édition que la première édition comportait un DVD tourné par notre confrère d'actualité Laurent Boileau, où on a vu les auteurs s'installer à Tokyo, Jean-David Morvan et Philippe Bûcher. Et ben dans ce cinquième tome de la série Fi, et ben c'est un album tout à fait normal, sauf que ben ils ont fait appel à leurs copains japonais qu'ils ont croisés, leur ont dit ben ça vous dirait d'être édité dans un album à la française. Et ben, on sent quand même que les Japonais sont retrouvés un petit peu intimidés là-dedans. Sur le découpage, ils ont un peu de mal. Devant autant d'espace par planche, ils ont voulu essayer de caser du coup un petit peu plus de cases où ils savaient pas trop comment faire. Par contre, il y a plein de choses à découvrir. Graphiquement, c'est très très différent de ce qui avait été fait pratiquement jusque-là, sauf peut-être dans le dernier Chronique de Sillage. On découvre encore plein de trucs. Il y a, c'est comme d'habitude, soit des historiques de personnages avant le début de la série, soit des histoires qui s'intercalent entre différents épisodes. Et là aussi, eh ben, c'est encore une fois une claque. Après, reste le plus dur. Il faut rentrer dedans parce que ben, c'est pas du noir et blanc, hein, c'est de la couleur et certains se sont littéralement lâchés. Et c'est vrai que ça en est très très proche du coup de Robot. De la revue Robot, c'est beaucoup plus luxueux et ça fait plaisir pour eux s'ils ont pu y participer. Et enfin, il y a un dernier bouquin, puisque j'avais promis que si tu en disais du mal, fallait que tu fasses gaffe. C'est Aya, la conseillère culinaire. Non, elle veut pas, d'accord, c'est sympa les copines.
Si, tu as le micro là, tiens, vas-y.
Bon, bah elle veut pas, et ben tant pis, elle fait très bien les muffins, mais du coup, elle ne parlera pas d'une énième manga culinaire.
Bah, c'était Aya ou les muffins, hein.
D'accord.
Mais moi, les muffins sont bons.
Moi, j'avais présenté l'archétype l'an dernier de la série pour apprendre un métier, Yakitate Japan, et j'ai été très surpris finalement qu'ils en soient déjà arrivés au tome 15. Quoique Dominique Verré, le conseiller manga en France, le conseiller manga de chez Delcourt avait dit, mais moi, je vais faire un partenariat avec une chaîne de boulangerie et tout ça. Ça, on l'a pas encore vu.
Si.
Il l'a fait.
Bah oui.
Ah bon, on l'a pas vu en France. Hein.
Je crois. Okay.
C'était chez qui? À Toulouse, pardon.
Ah.
Non, pardon. Excuse-moi.
Je sais plus avec qui c'était, mais je crois qu'ils ont fait un partenariat. Ils ont fait un partenariat avec la Fédération française des métiers de la boulangerie. Et les métiers, moi j'ai été en contact avec cette fédération qui est très contente du partenariat parce qu'ils cherchent beaucoup à toucher les jeunes et c'est un titre qui marche assez honnêtement chez Delcourt, pourquoi non?
Je me suis dit oui, c'est une manga qui est sympathique et tout ça, mais
ah manga.
Allez hop.
Voilà,
10 balles dans le pot.
Dans le Nourin, comme
dans le Nourin, exactement.
Voilà. Et
c'est un manga qui
et Enfin, finalement, donc, les gens ont accroché par le fait que ce soit un manga qui apprenne un métier ou...
Mais non, bon, faut pas se leurrer. On n'apprend pas un métier, on n'apprend pas à devenir boulanger en lisant un manga. Personne, même au Japon, nulle part, on sait très bien.
Si, moi j'ai appris à être millionnaire en lisant Largo Winch.
D'accord, ben.
Moi j'ai pas appris à jouer au foot, hein, apparemment, Olivier Tom. Hein.
T'es pas un très bon professionnel. parce que, enfin, où ça se voit pas, tu le caches bien, bravo. non, en revanche, alors, par exemple, là-dessus. Il y a eu à Angoulême un débat où j'ai réuni un boulanger, un pompier et un médecin. Le boulanger a parlé d'Yakitate Japan que je lui avais demandé de lire auparavant. Le pompier a lu Daigo, soldat du feu, que je lui avais demandé de lire auparavant. Et le médecin a parlé de Jin et Dr. Koto. Et alors tout le monde a dit que tout ce qui était dans les bouquins était strictement vrai, que c'était vraiment bien d'un point de vue technique et tout ça. Le médecin avait des choses différentes à dire du pompier, mais le boulanger, il a été un peu soufflé par ce qu'il a lu, parce que non seulement les techniques pour faire du pain, les recettes, les machins, c'est tout à fait juste, mais en plus l'esprit du boulanger, pour lui, c'est exactement ça. Ils vont beaucoup plus loin, même si c'est des chaînes au Japon. Et c'était un petit boulanger artisanal, petit nom, mais boulanger artisanal qui fait chaque matin, qui refait son levain. Enfin, vraiment bon. C'est quelqu'un qui m'a expliqué comment il travaillait. C'est vraiment très, très traditionnel, tradit, voilà. Et il a été vraiment soufflé par l'esprit, le côté proche dans la façon de faire, dans la façon de penser. Ils savent faire ça. Et ça prend. C'est génial, hein. Yakitate, c'est drôle. Il y a des personnages hauts en couleur. Les filles sont plutôt assez jolies. les combats sont
les belles miches.
Non, mais il faut bien. Il faut.
Il y a des combats.
On attrape pas les mouches avec.
Il y a des combats de pétrin.
Les mouches avec du vinaigre. Mais vous l'avez lu.
Moi,
bien
oui,
sûr
oui.
Qu'il y a des combats. Ils sont comme ça. Et il y a des combats dans Yakitate, bien sûr. Mais c'est des combats autour du pain, bien sûr. Et donc c'est un titre qui marche honnêtement, et c'est très fort, c'est très très fort, parce que ça s'adresse vraiment aux ados. Donc moi je vois pas, non, ça m'étonne pas, au contraire, je trouve ça plutôt bien, parce que c'est un titre qui a du fond, contrairement à ce qu'on peut penser.
Est-ce que tu penses qu'il y a des genres de mangas qui ont été traduits, ou des éditeurs qui sont lancés dans les politiques éditoriales qui finalement ne vont pas accrocher? Là, je demande ton travail de critique.
Des genres.
Des genres de manga ou des séries, finalement, elles ne démarreront pas.
Bah oui, hein. Oui, il y en a.
Parce que moi, j'ai vu des séries quand même qui sont assez nationalistes dans le propos.
Manga sur le jeu de Go, ça marche ici.
Hikaru no Go.
Ouais.
C'est une belle.
Oui, elle est bien,
c'est
très très bien soutenue par Fédération Go.
Oui, et puis même, c'est un shonen manga magnifique. C'est magnifiquement. Non, mais c'est vrai, super bien dessiné. Le personnage d'Hikaru, il est vraiment très sympa. Les personnages secondaires sont très chouettes. Il y a un vrai esprit. On apprend. Alors là, du coup, on peut un peu apprendre à jouer au Go, qui est un jeu millénaire. C'est l'équivalent des échecs. Enfin, il y a plein de joueurs de Go. Enfin,
c'est un jeu de territoire.
Bah oui, je sais. Non, mais l'équivalent des échecs en termes de statut au Japon et en Asie, le statut, c'est un peu comme les échecs. C'est-à-dire qu'en France, il y a des professionnels d'échecs, peut-être plus en Russie, où il y a beaucoup de professionnels d'échecs. Et ben, au Japon, il y a beaucoup de professionnels de Go, et c'est une vraie culture. On visite la Fédération japonaise de Go, où il y a un lieu sacré, il y a une sorte de temple qui est le cœur, le Saint Graal. Enfin, on apprend tout ça. Magnifique, Hikaru no Go, bien sûr. Et ça marche, et au Japon, ça a cartonné. C'est quand même du Shueisha, hein. C'est quand même du Shonen Jump, hein. C'est la même revue que Naruto, One Piece et Dragon Ball, hein. C'est pas un truc pour les intellos. Et c'est ça qui est très fort, c'est que c'est quand même, il y a une vraie tenue culturelle, il y a un vrai background derrière, mais ça s'adresse à tous les minots. Et avant Hikaru no Go, le Go s'était vu un petit peu comme la belote en France. On y joue le dimanche après-midi avec papy pour lui faire plaisir. Avec Hikaru, il y a eu des milliers et des milliers de jeunes qui sont venus s'inscrire à la Fédération de Go.
13h pile en tout cas. Sébastien Langevin, merci en tout cas de nous avoir enrichi de ta présence et d'être venu mettre un petit peu le bazar dans cette émission qui s'est su trop guindée.
Avec grand plaisir.
Pour ne pas dire manga au masculin. Néanmoins, tu peux rester si tu le souhaites, puisque du sport va armer la zapette et va parler de ce qui se passe à la télé.
ça tombe bien parce que moi on m'a offert un jeu de Go il y a très très longtemps et bon comme j'ai pas de partenaire tu vois parce que je suis le seul à savoir jouer, c'est un peu gênant quoi. Alors bon voilà, impeccable, ouais ça marche.
Et vous lisez Ikaru tous les deux et après voilà. En plus c'est une sorte d'extase.
Et on se bastonne. Bon, 13h, bah c'est 10 minutes de retard, ça va. Hein. De toute façon, je vais faire bref et concis. Et tu vas voir que en plus, ça va assez bien coller. On va commencer par une émission musicale. Alors, c'est une émission musicale qui a lieu, qui est mensuelle, et dont j'ai pas annoncé la première. Je me suis planté, j'ai complètement oublié, j'ai oublié de marquer. Puis bon, voilà, quoi, ça arrive. Là, je crois qu'ils en sont à la troisième. Mais c'est une émission qui est quand même relativement intéressante. Alors bon, la première j'ai pas vu, la deuxième j'ai vu pratiquement l'entier, la troisième pas trop, non. Et je vous convie quand même à regarder celle-là, une musicale qui s'appelle One Shot Note, et c'est présenté par l'ex de la Nouvelle Star, Manu Katché, le musicos de la bande.
Qui avait déjà fait une première qui était vraiment très très haut niveau.
Ouais non mais qui est pas dégueulasse, hein, qui est pas dégueulasse du tout quoi. Alors c'est co-présenté par Manu Katché. Alors que lui, bon, comme il parle français et anglais, c'est pratique parce qu'il peut causer avec les musiciens et tout. Il y a Alice Lumler qui, elle, parle en français, en anglais et en allemand parce que c'est sur Arte, donc il faut causer en allemand, hein, c'est normal. Alors, le principe, c'est un petit peu le même principe de cette émission dont je vous avais déjà parlé, une émission qui cartonne sur la BBC, le Late Night with Jules Holland.
Oui.
Voilà.
Qu'on aime beaucoup, d'ailleurs.
Ouais, dont on avait eu quelques émissions rediffusées par Canal Jimmy, mais il y a ça.
Ça passe, oh là là. Ça passe aussi sur e-concert HD, donc qui est une chaîne de la DSL.
Voilà, donc avec le principe réunir pas mal de groupes de sensibilités musicales un petit peu différentes.
Allez,
mais
venez, on va se faire un bœuf.
Mais qui sont dans le mouvement. Et proposer donc des sets de concerts carrément où les musiciens interprètent un voire deux morceaux. C'est un petit peu le même principe pour Manu Katché. Sauf que là, au niveau du filmage, c'est pas uniquement tout ce qui se passe sur la scène. La caméra va également se promener un petit peu dans les loges, en coulisses, comme ça, pour voir comment les mecs ils discutent entre eux. Ah ouais, ils font des rencontres. Ah tiens, je te connaissais pas, toi. Ça
c'est,
va.
C'est du making of sans
voix. Enfin, bon, des petits trucs comme ça, genre comme dans Taratata, tu vois quoi. Bon, ça c'est un petit peu la touche qui détonne, qui fait un peu chier quoi, tu vois, parce que bon, on a rien à foutre. Enfin, en fait, non mais c'est vrai, on en a rien à foutre quoi. Hein, le mec qui raconte et tout. Ah ouais, putain, ton solo sur la troisième mesure, génial. Ah ouais, trop cool. Quoi. Bon, on s'en tape un peu quoi. Et par contre. Des fois l'alchimie prend parce que bon à la fin il y a une espèce de buff général hein, qui est proposé où tous les musicos réunis eh bien se mettent plus ou moins d'accord pour interpréter une reprise de je sais pas qui de machin de truc de bidule. Alors là, les invités de ce soir sur Arte c'est Manu Chao, Geoffrey Oriema, musique africaine donc super grâce ouais qui viennent de sortir un dernier album là Duffy et Mickey Green. Tout ce beau monde donc ce soir pour la mensuelle de Manu Katché qui s'appelle One Shot Note sur Arte à partir de 22h35. Ça dure un petit peu plus d'une heure, ça dure 1h20, 1h30. Ensuite, toujours sur Arte, ouais, on va rester culturel un petit peu dans cette émission, hein, d'accord. Un téléfilm qui sera diffusé vendredi prochain, première partie sur Arte. Alors Arte le vendredi soir, c'est téléfilm bien sûr, mais c'était plutôt téléfilm allemand généralement, de bonne facture bien sûr. Mais là, eh bien, on a décidé de franchir le channel pour passer du côté de l'Angleterre avec un téléfilm anglais relativement récent qui date de 2005, hein, filmé par une nana qui s'appelle Ashley Pierce et qui s'appelle Le passé pour cible. Le titre original du scénario c'est Monroe Class of 76, je le dis bien quand même, et ça vaut surtout le coup parce que c'est interprété dans le rôle principal de l'inspecteur Monroe, Robert le grand, l'énorme, le magnifique Robert Carlyle. Robert Carlyle, donc, dans ce téléfilm qui sera diffusé par Arte vendredi prochain, à ses côtés, Daniel Mays, Claire Skinner, Robert Glenister, le frère de Philippe Glenister, le frère.
Aussi.
Eh ouais, et Sean Gallagher, bah, ça fait plaisir, il y en a qui suivent. C'est vendredi prochain sur Arte, à partir de 21h. Sinon, bah, full frontal, d'ailleurs, vendredi prochain, avec le passé pour cible, parce que, en même temps, à 20h50, sur France 2, il y aura Un flic. On avait déjà vu le pilote il y a un peu plus d'un an, je crois. C'était également un vendredi soir sur France 2. Et en fait, là, il s'agit du démarrage de la série des mini-aventures, enfin des mini-téléfilms, on va dire, qui font quand même la durée d'un téléfilm 1h30, donc qui vont être diffusés
à raison de 4 à 6 épisodes par année, par saison. Et là, eh bien, ça vaut un petit peu le coup. C'est le haut de gamme du polar français avec Hugues Pagan. Hugues Pagan explique, non, il écrit toujours, hein, il est écrivain. Il a sorti pas mal de polars chez Rivage. Il est également l'initiateur de la série Police District avec Olivier Marchal. Et c'est un petit peu le monde clos, le monde fermé, on va dire. Hein, c'est la même bande, on va dire.
C'est parce aussi que... un spécialiste du polar hardboiled.
Voilà, parce que c'est réalisé par Frédéric Tellier, qui avait déjà bossé avec Olivier Marchal sur 36 Quai des Orfèvres, et toujours dans le même rôle, donc le rôle principal du flic, du commissaire Schneider, Gaëtan Konzot. Il y a également Le Black, hein, tu te rappelles, je sais pas si vous vous rappelez de ce téléfilm dont j'avais parlé, et c'est vraiment pas mal, c'est assez intéressant comme ambiance un petit peu glauque et tout, c'est genre d'ambiance que Pagan il aime bien, quoi. Bon, il la retranscrit pas trop bien dans ses bouquins, moi je trouve. Mais là, à l'image, ça sort assez bien quand même. Donc, outre Gaëtan Konzot, dans le rôle principal de Schneider, il y a Marie-Gaëlle Kaltz, François Caron, Yvan Franck et Fanny Kolarova. Un flic, l'épisode s'appelle Affaires réservées. C'est vendredi prochain à 20h50 sur France 2.
Peu de jazz bollywoodien, 13h08 dans le supplément week-end, et toujours Sébastien Ferrand qui est avec nous, qui peut intervenir.
Langevin, Sébastien Langevin.
Ouais, mais allez. Il m'oblige à dire le manga.
Stéphane Langevin, je te salue.
du sport en chaîne.
Des séries à présent, alors pas tellement d'inédits ici. Il y a la troisième saison inédite de Ghost Whisperer avec Jennifer Love Hewitt. C'est sur TF1 cet après-midi à partir de 16h. Bah écoute, il y en a qui suivent. La preuve, c'est que la quatrième saison a tellement bien marché aux États-Unis sur CBS qu'ils ont signé pour une cinquième saison. Donc ça veut dire que ça roule quand même un petit peu quelque part, Ghost Whisperer. Et pas seulement parce que Jennifer Love Hewitt. Pas seulement, à mon avis.
Ouais, sinon, c'est l'unifiant comme série. Hein. Mais c'est peut-être après l'émission, j'ai envie de faire la sieste. Hein.
Ouais, non, mais justement, là, l'après-midi à 16h, c'est pas mal. C'est juste après la sieste, donc en principe, on devrait pas s'endormir devant. Sinon, complètement inédit, là. Ouais, alors là, bon, c'est dommage, c'est toujours des heures de diffusion à la con où moi, je suis au boulot, donc pour rester poli, je l'ai dans le baba. Et par contre, ça a l'air pas mal du
non,
tout.
Dans le muffin,
un soap allemand qui s'appelle Le Rêve de Diana, avec dans le rôle
destin
principal
Lisa, Le Rêve de Diana,
avec dans le rôle principal Tanya Shevchenko, et tous ceux qui sont des aficionados de patinage artistique savent qui c'est, parce que c'était quand même une des grandes concurrentes de Surya Bonaly en 94, dans ces années-là, tu vois. Donc patineuse artistique de très haut niveau. Et donc qui a le rôle principal d'une nana qui veut devenir championne de patinage artistique. Mais ça a cartonné outre Rhin avec 440 épisodes tournés quand même. Et M6 conjointement avec Teva, eh bien, commence la diffusion à partir de lundi prochain. Alors sur M6, c'est du lundi au vendredi tous les jours à partir de 17h, deux épisodes. Et sur Teva, par contre, ça commence bizarrement avec lundi à 16h50, quatre épisodes. Et à partir de mardi, c'est à 17h50, deux épisodes jusqu'au vendredi, donc.
Mais ils avaient rêve. Ça marchait plus, là, le truc, là, leur magazine ou quoi?
Ah, je sais pas, mais le rêve de Diana, donc, c'est sur M6 et sur Teva, tellement il y en a.
Et sinon, tant que tu es au SOP exotique, il y a Christophe, qu'on a reçu plusieurs fois ici, qui hier nous disait que Jardin Secret ou Secret d'Héritage est actuellement diffusé sur la TNT. Et il a pensé à toi, il a dit, est-ce que du sport va finir par parler du cœur à ses raisons?
Ah bah non.
Non, tu n'en parles pas.
Non, non, mais par contre, tu viens de me souligner un truc que j'ai complètement laissé pisser, tu vois. Voilà, tu vois quoi ce que c'est. C'est que Jardin Secret, tu sais que bon bah c'était quand même la fin de la saison 2 de Ugly Betty. J'espère que vous étiez tous devant votre poste pour la fin de cette dramatique saison. Ah, pauvre Betty, pauvre Betty. Et on risque de pas la retrouver en plus, c'est ça qui est dramatique. Mais à partir de lundi prochain, TF1, dans sa magnitude incroyable, eh bien, a décidé de réserver cette case à tous les aficionados de vraies séries. Et c'est carrément, je te le donne en mille, Jardin Secret, qui démarre à partir de lundi prochain sur TF1, 22h30. Soyez tous devant votre poste. Vous allez voir ce que c'est du vrai soap hollandais qui arrache, qui déménage. Et on les a laissés dans la fin de la saison 2 avec Martin qui fait un accident. Alors que, eh bien, je me rappelle pas son prénom. Elle est en train d'accoucher, elle a accouché d'un gamin, mais le gamin en fait n'est pas son fils, c'est peut-être le fils de Tom, car elle a quand même fait cracac à un
c'est
moment.
C'est pas son fils à elle.
Tom. Si c'est son fils à elle, mais son fils à lui, à Martin, qui est son mari.
C'est dans ce soap là qu'elle fait un test de paternité assez rock'n'roll au début.
Ouais.
Est-ce que c'est son père aussi?
Ouais, non, mais bon,
c'est pour ça que peut-être elle accouche d'un enfant qui n'est pas d'elle.
Non, voilà. Mais c'est la série qui commence, très trash, hein, une série hollandaise très trash, réalisée, scénarisée, interprétée par Linda de Mol, la sœur de l'autre.
De John de Mol.
Donc, et on peut dire que ça cartonne vraiment très très fort. En tout cas, je vous convie donc, c'est lundi soir à partir de 22h30. Et là, il faut quand même reconnaître que là, ils ont fait très très fort. Bon, c'est un petit peu dommage, ils auraient pu recommencer à rediffuser la série depuis le début parce que faut dire que les deux premières saisons, elles sont très courtes. Hein, il y a 8 épisodes de 52 minutes par saison, donc c'est vite vu. Ça vaut vraiment 100 pesants de cacahuètes.
Jardin secret. Et d'olive.
D'olive, mais à cette heure-là, peut-être tous les gosses ne sont pas couchés.
Et rassure-toi, Sébastien, Frédéric Boilet, que nous avons reçu ici, disait que tout ça, c'était des connaissances inutiles.
Exactement.
Il n'y a pas de connaissances inutiles. Ça n'existe pas.
Le prénom de Kojak.
Et mon nom de famille.
Oui, aussi. Merci, Sébastien.
Du téléfilm inédit à présent, c'est demain, si vous avez envie de faire la sieste, justement, ça tombe bien. C'est inédit, hein, c'est sur TF6 à partir de 13h20 et c'est l'histoire de Marco Polo, ouais. Filmé par un vétéran du genre, Kevin Connor, qui nous a fait plein d'épisodes du Saint, de Cosmos 99 et tout, avec dans le rôle titre Jan Sommerhalder. Ah ouais, là il y en a qui mouillent leur culotte, carrément quoi, c'est Boone dans l'Est.
Ah.
Voilà, ouais, qui joue le rôle de Marco Polo. À ses côtés, on a Brian Dennehy, ouais, magnifique.
Danny Boone.
Boone dans Lost, c'est qui déjà?
C'est un mec, le jeune qui crève à la.
Ah oui, au début, ouais.
Au début,
d'accord.
Là, tout de suite, pratiquement. Là,
le frère de
l'autre, je crois. C'est le frère de l'autre.
C'est le beau gosse, pourquoi tu dis. Ouais, d'accord.
Voilà,
je comprends ta blague.
Le beau gosse. Voilà. Brian Dennehy également dans ce Marco Polo, ainsi que Billy Wong. Billy Wong qui est échappé de Oz et de. New York, unité spéciale, me semble-t-il. Tout ça donc, c'est sur TF6 demain après-midi à partir de 13h20. Et c'est hyper long, hein, c'est en deux parties, ça fait 3h30 en tout, quoi. Hein, c'est vraiment le truc à fond les manettes quand même. Et c'est récent, hein, ça date de 2006. Sinon, il y a également jeudi prochain, une soirée spéciale disco. Et j'ai pas pris de disque. Tu as remarqué que je n'ai pris aucun disque. Il n'y aura pas d'illustration musicale du tout, rien du tout, nada, que dalle. Avec tout d'abord
tu viens normal. De faire un pari idiot du sang.
Ah merde. Tout d'abord, à 20h50, normal, Saturday Night Fever, normal, classique, indémonable. Suivi à 22h50, alors si c'est le documentaire que j'ai déjà vu, il est vachement bien, contrairement à ce qu'ils disent dans la critique du magazine où ils disent que c'est long et chiant et ennuyeux. Mais si c'est le truc que j'ai déjà vu, c'est excellent. La Révolution Disco, c'est un documentaire qui fait plus d'une heure, 1h20. Sur comment la disco s'est organisée, tout musicalement c'est vraiment très bien. Il y a les interviews de tous les mecs qui ont commencé à faire ce genre et qui ont travaillé un petit peu avant, Giorgio Moroder et toute la bande. Enfin, ouais, c'est vraiment très très bien. Larry Levan,
il y a Patrick Hernandez,
tous, tous. Ah bah ouais, bah obligé. Suivi à 0h35 toujours sur Paris Première jeudi prochain de Nile Rodgers and Chic, le concert live à Montreux en 2004. Alors il a bien fait de préciser parce qu'à l'époque l'autre Bernard Edwards, il était déjà mort hein, depuis pas mal de temps. Ouais. Quoi. Bon, ouais, bon, bah ok, hein, tant pis. Mais ça fait rien, c'est Nile Rodgers, quoi. Ça fait Nile Rodgers quand même, quoi. Suivi à 1h10 de Cheron, Hysteria Party à l'Olympia en 2003, et suivi à 2h35 de Earth, Wind and Fire live en 2004. Vas-y. La boule. Fais tourner la boule. À présent, vite fait, une sélection de films pour la semaine prochaine, mais que des gros classiques, hein, comme d'habitude, avec tout d'abord, ouais, Hitcher de Robert Armand, c'est demain soir à 22h35 sur RTL9 avec Rudy et Jennifer Jazzoli, entre autres. Chasse à l'homme, c'est lundi prochain sur RTL9 avec Arnold Vosloo, Lance Henriksen
et Jean-Claude Van Damme, par genoux.
Pratiquement en même temps à 22h40 demain soir sur TMC, Le Protecteur. Ouais, alors ça c'est une grosse daube de Pochi Long avec Steven et Agnieszka Wagner.
Ouais,
enfin,
je me suis dit on n'a pas eu de disque de Steven depuis tout à l'heure.
Non, je ne les ai pas amenés. Il y a également Ultime Décision, justement, on cherchait le titre là il y a 15 jours et tout, oui. Celui qu'on cite tout le temps là, quoi, tu sais quoi.
Là où Steven Seagal meurt.
Voilà.
C'est pour ça que c'est le seul bon film.
C'est sur TV Braze lundi prochain à partir de 20h45. Il y a également Halle Berry dans le film. Ouais. John Leguizamo. Et je vous ai retrouvé, ouais, celui-là, je m'en rappelais plus, quoi, mais c'est vrai qu'il est vachement bien quand même, quoi. 4 bassets pour un Danois de Norman Tokar, le même qui a fait Le Chat dans l'espace. Le même.
Vas-y, continue, Luc. Tout est normal. Tout est sous contrôle. C'est rarissime, je crois que c'est la première fois en 150 émissions que du sport a une crise de fou rire.
Non, si,
ça.
Il avait une crise de fou rire en parlant du film avec un phoque.
Elle dit que c'est approche du mois d'avril était particulièrement dangereux sur cette antenne. Reprends-toi. Il n'y arrivera pas. Même la vitesse c'est barré. Il a eu une crise, donc il n'a pas pu. Cette émission devient de plus en plus difficile à suivre. Respire. Reprends un muffin du sport.
Bon, c'est sur Disney, bien sûr. C'est un film Disney. Hein, Norman Tokar est un... est un réalisateur maison de chez Disney. Et donc c'était quand même un grand classique hein, qui est sorti un an avant ou un an après le plus beau film du monde qui s'appelle L'Espion aux pattes de velours, bien sûr, mais qui est pas réalisé par Tokar hein. Donc c'est mardi prochain à partir de 20h30 sur Disney Ciné Magic. Sinon, il y a également mercredi prochain Kalidor du regretté Richard Fleischer avec Arnold Schwarzenegger, Brigitte Nielsen et le retour de Sandal. Je sais, je me rappelle pas qu'elle jouait également dans Kalidor, Sandal Bergman. Celle qui est dans Conan, quoi.
Ah, la blonde.
La blonde,
qui,
voilà.
Qui meurt.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Dans Kalidor, il y en a deux, quoi. Dit, tu seras mieux payé, t'as pas deux blondes. Et encore un petit polar pour terminer cette première séquence avec Triad Zone de Dantlam. C'est sur Cinépolar jeudi prochain 20h45 avec Tony Lou Kafai, pas l'autre, Sandra Ng et Anthony Magnifique Wong. Tout ça c'est sur Cinépolar jeudi prochain 20h45. Et là, tu m'as passé carrément le programme de la Cinémathèque avec la thématique érotique du Japon en mai. Ça tombe bien, j'avais fait une petite série de films de cul à la télé la semaine prochaine.
Ah non.
Ah.
Non.
Comment ça, non, quoi?
Ah, tu sais ce qui arrive. Vas-y.
Alors, ce soir, sur TPS Star à 0h10, alors... Quand je dis pas que c'est des moins 16, c'est des moins 18 de toute façon, d'accord,
d'accord.
On est bien d'accord. Alors, ce soir, sur TPS Star, à minuit 10, le couloir des fantasmes extrêmes d'Alain Payet. Ouais. Ah, sur TMC, à 2h20 du matin, Désir Noir, mais là c'est une série, hein. Donc c'est tous les soirs de la semaine, mais à un horaire plus ou moins tardif, après minuit. Donc c'est du moins 16, avec celui-là de ce soir, avec Anouchka Renzi, donc, et Rehan Abrahams. Et sur Ciné-Cinéma Frisson, à minuit 10, le 8e péché capital d'Alain Payet. Demain, sur XXL, Sex Angel de Xavi Dominguez avec Jennifer Dark. Mia Diamond, celle-là, elle est pas mal, mais bon, on s'y connaît. Et Sandy Styles. Jennifer Dark aussi est pas mal, hein, c'est une brune et tout. Lundi, sur XXL, toujours à minuit, Tequila Boom Boom de Alessandro Del Mar avec Alexa Bass, que ça ne dit rien. Et Sandra Russo, ça c'est une blonde. Mercredi, Ciné-Cinéma Frisson, à minuit, à 1h05 du matin, Les Secrétaires de 2003 de Yannick Perrin. Ouais, ouais. Alors ça c'est plutôt, ça c'est français, hein, donc.
Mais... c'est pas du genre Rollin, ça passe.
Ouais, non, mais, mais c'est quand même la tendance qui rejoint la tendance américaine, à savoir gauche profonde, double P, enfin la totale, enfin double pénétration, enfin la totale quoi.
Hein, tu vois, bon, Thomas, tu tiques sur ces expressions maintenant.
Donc ça c'est mercredi, hein, sur Ciné-Cinéma Frisson. Jeudi, sur Frisson, à minuit 30, La Candidate de 2005. Toujours jeudi sur Ciné-Ciné Culte à 20h45, Nuit Brûlante. Alors celui-là il est moins 16 parce qu'à mon avis ils ont viré les scènes franchement pornographiques. Et pourtant, bon, il est pas mal. Nuit Brûlante, hein, c'était les films français de l'époque des années 70. Bertrand Barry 78 avec l'énorme Brigitte Lahaie. Ouais, ouais, mon gars. Jean-Pierre Armand. Ouais, ouais, mon gars. Ursula White. Ouais, ouais, mon gars. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est jeudi prochain sur Ciné Cinéma Culte à 20h45. Donc, et sur XXL, le jeudi prochain, il y a également Terra Fille Sublime. Ouais. Un film de Nick Steele avec Terra Patrick. Ouais, Terra Patrick, qu'elle sort avec un mec de Biohazard.
Je suis salaud, c'était le break, alors je le fous.
Ah là là. Allez, encore quelques petits films. Vendredi prochain sur Ciné-Cinéma Frisson, Katsumi à l'école des infirmières d'Alain Payet. Le 2004, qui a dû changer son nom parce qu'il y a une nana qui l'a attaqué en justice. Et donc, maintenant elle s'appelle Katsuni, tu vois. Parce qu'elle a dû payer, je crois, 20 000 ou 25 000 euros à la nana, parce que la nana, elle dit, ouais, elle joue dans les films de cul, c'est pas possible.
Elle est connue.
Elle a porté atteinte à mon nom. Et puis donc, elle a dû payer, hein, et là, pourtant, on continue à l'appeler Katsuni, hein, dans les programmes de trucs. Et il y a également sur XXL vendredi prochain, French Beauty de John Birut. Ah ouais, normal, 2001 avec Matilda et HPG, voilà. Mais n'oubliez pas, lundi prochain, 22h30, TF1, Jardin Secret.
Eh ben, ça tombe bien, on enchaîne. Thomas, dis-moi, oui. Est-ce que tu peux faire un résumé pour ceux qui ont pris l'émission numéro 151 en cours de route?
Oui, tout à fait. Nous avions Sébastien Langevin en invité aujourd'hui. Tu t'es fait fesser 4 fois, j'ai dû compter. Et tu as écorché 3 fois le nom de Sébastien. Il y a eu la bouse de mammouth, du manga, du manoir, du sillage à l'envers. Il y a eu un tocard qui a réalisé un film sur un chat dans l'espace. Et une alerte cul.
Grand Dieu, ami auditeur.
Comment ? Et 4 bassets pour un danois aussi.
Oui, oui, excuse-moi, j'ai coupé.
Tu l'as jamais vu ?
Non.
Non, mais en fait, c'est l'histoire de... C'est ni plus ni moins l'histoire imagée que peuvent voir les enfants et les parents. Ça raconte l'histoire d'une romance entre une nana qui a 4 bassets et un mec qui a un danois. Et donc, au départ, comme d'habitude, dans toute comédie romantique américaine des années 50-60... ils vont pas s'aimer au début et puis ensuite ils vont commencer à se comprendre et à la fin bah, bien sûr ils vont finir
faire tout plein de bassets danois.
Voilà.
Voilà. Nom d'un commentateur sportif mort. Ils ont loupé tout ça. Heureusement, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser des commentaires, poser des questions. N'hésitez pas, même si vous me posez des questions, peut-être on fait gagner des BD. Alors, il suffit d'aller sur le site web supplément weekend, sans accent ni tiré supplémentweekend.tk, ou sinon vous cherchez supplément weekend sur Google avec MP3 ou Toulouse ou émission à côté pour être sûr, mais normalement on est tout en haut. La suite des programmes sur Radio FMR avec Jazz Not Dead à 15h, 17h Big Bang, 18h Made in Trance, 19h Happy Hour, 20h La Cetero Experience, 21h30 9 Love, et on redescend le tempo avec du live à 23h avec le potager sur la scène rock. Sinon, l'actualité de cet après-midi, sachez qu'il y aura Jean-Marc l'Officier, Randy l'Officier, Guillaume Lebeau et Philippe Vard qui seront dédicaces à la librairie Album BD Ciné. C'est des auteurs de science-fiction qui sont là donc pour Crépuscule Vaudou, qui est sorti dans la collection Club Van Helsing chez La Baleine, sachant que Jean-Marc l'Officier est aussi éditeur de science-fiction à La Rivière Blanche. À noter aussi ce soir au Petit London, The Mami Van Doren Show, avec un set DJ vidéo Hypnotica, c'est mix, DJ, projection vidéo, chanson live et hypnose. Avec toujours les affiches absolument monstrueuses, c'est une émission qui passe le mercredi de 19h à 20h sur la radio. C'est aussi la semaine rock sur FMR, donc jusqu'à demain soir avec l'association Progression. Et n'oubliez pas, au bikini, mardi prochain pour le 1er avril, le concentré de Taratatouille, qui s'est présenté par Monsieur Wong. Alors, on s'attend au pire. Bon, je déconne. Allez, oh, ciao, bye. See you la semaine prochaine.
Ciao.